Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast 9m15. Comme chaque semaine, la rédaction de Genside se réunit pour débattre des questions qui font du football une culture plutôt qu'un sport. Cette semaine, la statistique est-elle en train de tuer le football ? Deux membres de la rédaction sont autour de la table aujourd'hui. Yannick, qui regarde clairement de plus près ses stats Instagram que les stats de Javier Pastore. Salut Yannick.
Salut à tous, c'est totalement vrai.
Et Milan, qui ne s'intéresse plus au stade de foot depuis le dernier titre du stade de Reims en 1962. Salut Milan.
Salut, je suis content, on enregistre le matin et j'ai une vraie voix de baryton ce matin.
Donc c'est magnifique. C'est magnifique.
Ça fera ma vraie voix de radio, là, je trouve mon style.
Pour nous accompagner et nous éviter de dire trop de bêtises, on a la chance de recevoir Loïc Moreau, directeur chez Opta et auteur du livre sur toutes les statistiques de la Coupe du Monde aux éditions Solar. Salut Loïc.
Salut à tous.
Bien, on va commencer cette émission avec la question la plus débile, comme ça, ça sera fait, parce que ça, c'est un truc qui pose problème à beaucoup de gens et à nous aussi.
Ça va, tu nous vends bien.
Ouais, non, mais au moins c'est fait tout de suite. Non, et après,
c'est vrai
on pourra
qu'on
parler
se la pose tous. Et là, du coup, on laisse encore un peu de suspense pour les gens, mais c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. Mais quelle est donc cette question ?
Ouais. Mais quelle est donc cette question ?
Bah, on fera un jingle exprès.
Exactement, on l'aura après le générique.
Et but ! Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Comme promis, on commence avec la question la plus débile possible sur les statistiques. Loïc, comment ça marche, les statistiques ? Qui les comptabilise ? Comment ça se passe ? Que ça se passe dans une cave avec des enfants chinois dans une région sombre de la France ?
On imagine tout ça, nous.
Des gens dans une, ouais, vraiment dans une cave qui tapent sur des petits boutons.
Ils ont des boutons
partout.
Activés parce qu'il y a un but, tout ce genre de choses, une passe.
Voilà. Et c'est impossible de ne pas regarder un match de foot avec ma mère ou un truc comme ça dès qu'elle voit une stat. Putain, mais qui compte ? Il y a un mec qui est là pour compter chaque passe du truc ?
Alors, il n'y a pas un mec, ils sont plusieurs, mais effectivement, c'est bien de le rappeler, ce sont des humains qui font ça, c'est-à-dire que ce n'est pas automatisé. En fait, si vous voulez, sur chaque match, on a trois analystes, donc un pour l'équipe A et un autre pour l'équipe B, et un troisième qu'on appelle un data checker qui est chargé de s'assurer que tout se déroule à merveille, qu'il n'y a pas de problème, qu'un analyste ne soit pas passé à côté de quelque chose en particulier. Et donc cette personne, le data checker, a aussi la main sur l'enregistrement, en fait, puisque tous les matchs sont enregistrés sur disque dur. Nous, on se base sur le signal télé. Et il va passer dans les rangs et s'assurer que les analystes donc puissent suivre leur match sans aucun problème.
Mais même pour le moindre petit match, tu vois, le truc de national et tout, parce qu'aujourd'hui les stats on les a sur tous les matchs les plus obscurs du monde. Il y a toujours cette bande de personnes avec le data checker. Désolé pour l'accent.
Milan n'est pas très fort en anglais, vous l'aurez remarqué. Hein.
Je l'assume et tout ça pour tous les matchs. Ou alors t'en as certains où ils adaptent différemment.
Eh ben, disons que sur les matchs des championnats majeurs, il y a ce dispositif qui est mis en place. Après, sur les championnats qu'on appelle mineurs, où il n'y a pas besoin d'une couverture de data en live, là, du coup, le data checker n'est pas nécessaire. Il suffit juste de regarder le match et de faire la saisie.
Mais ils font comment,
et
en fait,
après coup, du coup. Ouais.
C'est ça, en fait, je comprends pas. C'est qu'ils ont un clavier avec genre centre réussi, centre raté. Enfin, c'est exactement ça. Enfin, je sais pas.
Justement, j'allais y venir. Okay. Donc, chaque analyste a devant lui son écran d'ordinateur. Mmh. Et entre les deux, il y a donc un autre écran qui diffuse la rencontre. Et si vous voulez, en fait, sur ce même ordinateur, il y a un terrain 2D qui est superposé sur le flux télé. Donc ça veut dire qu'ils ont à la fois le match qui est diffusé entre deux et juste en face. Et sur ce terrain 2D, ils vont tracer des lignes, par exemple pour déterminer où se situe telle ou telle passe, où le joueur a touché son ballon, où il a dribblé. Et du coup, en faisant ça, ça va rapporter tout ça dans la base de données. Ça va être... comment dire, ingéré par cette base, et on va pouvoir ensuite, nous par exemple au bureau éditorial, aller chercher ces différentes données et pouvoir les exploiter ensuite pour les transmettre aux médias. Donc c'est bien évidemment un travail qui est assez impressionnant à voir, parce que comme disait Yannick, effectivement ils cèdent beaucoup de leur clavier pour justement faire la saisie de données, et on a développé en interne un logiciel qui permet justement donc d'avoir accès aux catégories stats basiques et justement justement à l'aide donc de ce clavier et de ce logiciel, ils arrivent à saisir les données en un temps assez record. C'est assez impressionnant de les voir faire la saisie. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive au process de la récolte de données chez Opta. En tout cas, c'est comme ça qu'on
procède. Justement, tu as anticipé notre prochaine question. Moi, c'était ça la question aussi. C'est comment vous ensuite, déjà, il y a la saisie de base, mais comment vous ensuite vous les récupérez, parce que vous êtes connu Opta pour sortir des stats que personne n'a. Ou alors, je sais pas, vous les mettez en perspective, mais en tout cas, vous sortez des stats, on se dit comment ils sont allés la chercher celle-là.
Bah, donc, en fait, les analystes, une fois qu'ils ont collecté cette data, on a aussi possibilité d'aller l'extraire donc de manière assez rapide et plutôt simple, une fois qu'on maîtrise l'outil, parce qu'on a encore une fois une base de données développée en interne, et ça nous permet justement d'avoir cette réactivité-là et de pouvoir rebondir sur des statistiques qui vont être saisies par nos analystes, qui sont en quelque sorte la base de notre métier, parce que sans eux, bien évidemment, pas de collecte de data. Et s'il n'y a pas de collecte, bah, nous, on ne peut pas exploiter derrière au bureau éditorial, on ne peut pas exploiter ces stats, et ainsi, on ne peut pas les transmettre aux médias. Donc, en fait, c'est tout un process qui se met en place grâce au talent de nos analystes. Et nous, après, charge à nous d'aller chercher la stat qui va
faire la bonne lecture du bon chiffre.
Exactement,
c'est le débat, je crois, c'est un des débats qu'on va avoir, parce que c'est clairement ça.
C'est essentiel.
Un chiffre tout seul, ça ne sert à rien, mais l'analyse qu'on en fait, clairement, c'est là où ça devient intéressant.
Absolument.
Dans un contexte et tout ça. Et alors, forcément, je me pose la question, comment on devient analyste ? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent, là, qui se disent, putain, c'est un taf où on regarde du foot concrètement toute la journée.
Je pense que je peux postuler à tout instant.
Voilà, ça fait un peu rêver. Comment on fait ça ?
Alors, je pense que c'est que des gens fans de Football Manager.
Ouais,
pour moi, c'est ça.
Alors, on n'en est pas loin, en fait. pour essayer de vous dresser un portrait robot de nos analystes, donc la plupart sont donc bien évidemment des passionnés de foot. Faut savoir que la saisie, la collecte de données, elle se fait dans certains bureaux. Tous les bureaux donc d'Opta n'ont pas forcément un pôle d'analystes. Par exemple, la Ligue 1, elle est analysée depuis Leeds en Angleterre. Et donc, ce sont des gens qui sont à la fois férus de foot, bien évidemment, puisque potentiellement, quand vous êtes anglais vivant à Leeds et que vous allez devoir analyser les matchs de Dijon, j'aurais pas cité Guingamp parce que c'est un de mes clubs, mais disons, prenons allez, Dijon et Metz par exemple. Bon, il vaut mieux que vous connaissiez tous les joueurs, il vaut mieux que vous ayez une appétence pour la Ligue 1, ce qui n'est pas forcément évident, et donc un intérêt assez prononcé pour ça. Et au-delà de cette passion du foot qui est évidente, il faut aussi des talents de réactivité hors normes, parce que, encore une fois, c'est difficile là de pouvoir vous expliquer à quel point c'est impressionnant à aller voir collecter cette data. C'est vraiment des gens qui ont une saisie absolument formidable et une rapidité absolument incroyable. Souvent, ce sont des gamers aussi, donc des gens qui aiment les jeux vidéo et qui ont donc cette réactivité aussi, ce doigté, on va dire, pour la collecte de data. Et voilà, c'est en général les profils qu'on a chez nos analystes, donc des gens qui ont une passion absolument démentielle du football et background gamer en général, un peu geek, hein, forcément, parce que pour faire de la saisie, il en faut, et surtout un sang-froid aussi à toute épreuve, parce qu'encore une fois, la plupart des championnats sont collectés en live, et bien évidemment, derrière, on a des clients qui prennent des flux, qui s'attendent à ce que nos stats soient parfaites. Donc, bien évidemment, on ne peut rien laisser au hasard, et une erreur de saisie peut avoir des effets dramatiques. Donc, c'est vraiment des gens qui sont des top guys, comme on dit.
Ok, j'aurais bien aimé entendre ça il y a quelques années. Tant pis.
C'est très bien avec nous.
T'as le profil en plus, hein, fan de foot,
t'es
un peu gamer dans l'air
et tout. Non, il y avait un truc à faire. Bon.
Tu laisseras ton CV à la fin de l'émission.
Tu veux nous piquer, Loïc.
Si t'es prêt à aller bosser à Leeds,
ouais, c'est ça le problème. C'est un peu le problème.
Faut se motiver.
Pour entamer un peu tous ces débats, on va s'intéresser déjà à la base du truc. D'où vient la stat ? La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la stat en sport, je pense tout de suite au sport américain, je pense à la NBA, au football américain. Est-ce que la stat est d'abord arrivée là-bas parce que les enjeux financiers étaient déjà importants là-bas, ou est-ce que c'est parce que c'est des sports qui se prêtent plus facilement à l'analyse de la stat ?
J'aurais tendance à dire à pencher pour la deuxième option, parce que je pense que c'est vraiment une question culturelle. Le chiffre dans le sport américain et plus globalement dans la culture anglo-saxonne, il est omniprésent. Et d'ailleurs, on le voit bien par rapport donc déjà au sport américain que tu citais, mais même en Angleterre, parce que Opta, c'est une entreprise qui existe depuis 1996. C'est une émanation de la chaîne anglaise Sky Sports, à la base. Et c'est vrai que cette création, elle a répondu à un besoin, à une appétence chez les Anglais de statistiques. C'est vrai que elles sont arrivées via le Royaume-Uni et particulièrement l'Angleterre. Et on le voit bien dans leur culture, dans la culture du chiffre. Nous, chez nous, enfin dans les pays en France notamment, ou dans les pays latins, c'est quelque chose de très récent. L'exploitation de la data, c'est quelque chose qui a une grosse dizaine d'années, on va dire, qui a été introduite par Canal+, qui a figuré parmi les pionniers dans ce domaine. Mais vraiment, non, je pense que c'est culturel, c'est dans la culture anglo-saxonne.
Je pense justement qu'au-delà de cette exploitation de la data qui est dans leur culture, tu as vraiment des sports qui s'y prêtent, enfin, notamment clairement. Quand on parle des sports US, ouais. Un sport comme le basket qui est peut-être le sport le plus individuel des sports collectifs, où tu as une vraie influence. C'est vrai que tu peux pas mentir sur le fait qu'un mec qui a mis tant de stats a forcément eu de l'influence sur le match.
Exactement.
C'est plus facilement quantifiable. En plus, c'est des sports avec beaucoup d'arrêts de jeu aussi.
Tout à fait.
Qui vont avec la culture américaine autour de la pub et toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça facilite.
T'as énormément de secteurs aussi. T'as énormément de secteurs. Donc, dans un sport où t'as 5 joueurs, forcément, la stat a plus d'importance que quand t'es 11, je pense.
Absolument.
Et clairement, comme tu le dis, c'est un sport arrêté. C'est un sport où.
Puis même, tu vois, le foot américain, t'as plus de monde. Mais finalement, le foot américain, chaque joueur a beaucoup de role-players.
Oui.
Donc, des joueurs qui finalement ont une stat spécifique qui va les définir eux. Donc, la stat a du sens derrière de les définir par rapport à ça.
Le foot américain, c'est pas un sport collectif en soi. Tu vois, c'est vraiment genre. Déjà, t'as une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Ça n'existe pas dans d'autres sports ou très peu finalement. Et c'est là où je pense où le sport US qui a rien à voir en fait avec notre sport, j'ai envie de dire, à nous, très latin. Mais quand tu dis que les latins n'ont pas ce truc là est-ce qu'on a été ringards pendant très longemps, ou est-ce qu'on
est encore des romantiques un peu du sport, quoi.
On aime se dire ça,
voilà. Non, j'irai pas jusqu'à dire ringards, mais disons qu'on est peut-être plus fermé à d'autres types d'analyses, notamment celui concernant la data que certains pays anglo-saxons. Et c'est vrai qu'on est souvent à la traîne, hein, on le voit bien par rapport à la data, par rapport même à l'analyse de la performance en général dans le football. Et idem par rapport aux fans, on n'a pas forcément été éduqués avec ça, et pourtant on est pourtant d'une génération qui n'est pas si ancienne que ça, mais les stats, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Mais par rapport à ce que tu disais sur le football américain, j'y reviens un instant, c'est vrai que on a tous entendu parler de Moneyball, le livre qui est donc devenu adapté
sur du baseball,
au cinéma.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, on est dans les sports américains et on voit bien à quel point ça a eu une influence.
Pour raconter en fait l'histoire du film, et c'est en clair.
En France, c'est le stratège.
C'est le stratège, c'est ça. C'est avec Brad Pitt. Ouais. Et en clair, le mec va utiliser que des stats pour monter une équipe. Donc c'est juste ahurissant.
Et c'est une histoire vraie, et ça a marché.
Et ça a marché, c'est ça. Donc c'est ça. C'est aujourd'hui, ça nous paraît juste dingue de se dire, ça fait très très jeu vidéo. Tu sais, je vais prendre les joueurs qui ont les meilleurs notes.
Ah ouais, mais le mec, il fait une partie de Football Manager en mode baseball, c'est tout dedans.
Exactement.
C'est John Hill, je crois, qui joue l'analyste. Mais c'est un truc de fou. C'est un geek en plus. Il répond un peu au profil que tu décrivais tout à l'heure.
Voilà,
un obsédé de ça, et il est persuadé que ça pourra marcher.
Et tu penses que c'est moi, je n'y crois absolument pas. Mais tu penses que c'est jouable dans le foot de faire un truc comme ça aujourd'hui?
Non, pas à ce niveau-là. Après, je pense qu'on peut définitivement s'appuyer sur la data, par exemple dans le recrutement. C'est ce qui a déjà été fait, et avec réussite. Par exemple, on cite souvent l'exemple d'N'Golo Kanté quand il a été recruté par Leicester, parce que une petite histoire avec Opta autour de ça, c'était que Leicester à l'époque cherchait un milieu défensif qui était bon dans la récupération, plutôt bon dans les tacles, plutôt bon dans les interceptions. Et au final, à l'époque, il jouait à Caen, personne ne le connaissait. Voilà, il venait finir une saison honnête en Ligue 1, il y avait Marseille dessus.
T'avais Lyon aussi qui avait dit.
Ouais, voilà. Mais sinon, son nom n'était quand même pas encore aussi reconnu qu'il l'est aujourd'hui. Et au final, dans nos rapports, son nom est ressorti. Donc on l'a proposé à Leicester, qui finalement.
Dans ces cas-là, les clubs viennent vous voir en se disant.
Certains clubs.
Ça va aborder une question.
Exactement. Certains clubs le font. Et au final, donc ils ont décidé de le recruter avec la suite que l'on connaît. Donc je pense que la data peut aider, notamment au recrutement, mais après, pas.
C'est sur certains postes, on va
c'est
dire.
Ça,
parce
exactement.
Que je sais que Wenger a fait la même chose, alors pas avec Opta, mais avec une autre boîte, pour recruter un défenseur central.
Gabriel Silva.
Il y avait celui-là, et t'avais Mertesacker aussi.
On verra tout à l'heure un peu l'influence que peut avoir les stats.
On va trop vite.
On a notre garde-fou, heureusement.
D'où vient la
stat? Merci, Valentin.
Quand est-ce que la stat est arrivée en France? On parle souvent d'Aimé Jacquet, qui est le premier à avoir un peu utilisé des stats pour gérer l'équipe de France 98. À partir de quand on a commencé à vraiment s'en servir? Est-ce qu'on va s'en servir encore plus dans les années à venir?
Bah, disons que moi, selon moi, Canal+ a joué un grand rôle donc dans l'avènement de la stat en France, tout simplement parce qu'à l'époque, Charles Bietri s'était inspiré aussi de ce qui se faisait donc de l'autre côté de la Manche. Donc je dirais que dans les années 90, la statistique a commencé à arriver sur nos écrans. Après, il y a eu tout ce qui était palette aussi, sur
la fameuse palette à doudous, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Et au final, ce rôle de pionnier de Canal+ a ensuite été, on va dire, perpétué par différents médias qui ont commencé à s'y intéresser, mais ça a mis encore une fois pas mal de temps. Je dirais que c'est vers 2005-2006 qu'on a commencé à avoir vraiment un intérêt de la part des médias français. Donc au début, c'était plutôt sporadique. Et là, désormais, on voit vraiment que ça commence à être ancré. Il y a une vulgarisation de la statistique qui permet justement aux médias de pouvoir la manipuler et la mettre en avant.
Alors toi, tu vas nous dire que, évidemment que non, mais est-ce qu'on n'en voit pas trop justement des stats? Tu dis que ça arrivait petit à petit. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas 5 minutes dans un match où on ne nous balance pas une stat. Est-ce que c'est parce que nos commentateurs sont moins bons? Est-ce que c'était parce que notre championnat est moins intéressant? Ou pour combler des vides? Ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on en mange un peu de tout en fait. Certaines cool et certaines, tu dis ouais.
Okay. Alors, c'est devenu banal en plus.
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est que c'est même plus exceptionnel d'avoir un chiffre maintenant.
Non, mais disons que à mon sens, l'utilisation de la stat doit appeler une grande prudence, parce que bien évidemment
un grand pouvoir appelle de grandes responsabilités.
Exactement. mais au final, c'était il faut pas essayer de faire du chiffre pour faire du chiffre. C'est bien le problème, et c'est vrai qu'il y a certaines dérives dans certains médias, ou même un peu dans quand nous on utilise les réseaux sociaux par exemple. Parfois on voit que beaucoup de gens agitent des stats comme si c'était un peu parole d'évangile, ce qui devrait pas être le cas. Après, par rapport à ce que tu disais, Yannick, je pense qu'effectivement, il y a un besoin de combler des vides aussi. C'est dû notamment à la multiplication des titres médias, chose qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ou 15 ans, avec les sites web, avec les talk shows, avec les chaînes de télé. Et ça, bien évidemment, pour animer, on s'est vu que la statistique, par essence, elle aide à créer le débat. Bah forcément, on
te rends compte quand même du pouvoir que vous avez là à donner un chiffre, et parfois ce chiffre-là peut encenser quelqu'un ou tout simplement le descendre, alors que un chiffre, tu le dis très bien, ça veut rien dire tout seul. C'est l'analyse qu'il y a autour et la combinaison d'autres chiffres qui font que, enfin, tout à l'heure tu verras, moi j'ai analysé un petit chiffre de 98. Aujourd'hui, on se dirait, bah, si on avait utilisé que ce chiffre-là, on n'aurait peut-être pas vu la même finale.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut être, très prudent. Et c'est vrai qu'un grand pouvoir donc, entraîne de grandes responsabilités. Et c'est pour ça que ces data, qui sont donc un degré d'analyse qu'on propose donc, via donc, nos services, doivent vraiment être utilisés avec beaucoup de prudence, déjà par nous, mon équipe, donc le bureau éditorial, avant d'être transmis aux journalistes, et même une fois que les journalistes les ont en main, bien les contextualiser pour éviter justement de faire dire n'importe quoi au chiffre, parce que le chiffre, lui, par essence, il est vrai, il ment pas. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple 95% de passes réussies, même si c'est sur un total de 5 passes, le chiffre reste correct.
Voilà, le chiffre, mais c'est l'interprétation.
Exactement.
Si c'est que des passes entre deux défenseurs centraux, ou des transversales de 90 mètres, ou des passes en profondeur qui sont décisives, après, c'est là où l'analyse est différente.
C'est exactement ça, parce que 95% de passes réussies sur 5 passes, c'est pas la même chose que sur 50, c'est pas la même chose que sur 100. Comme tu disais, Yannick, il y a le fait aussi de savoir dans quel contexte ces passes ont été effectuées. Si c'est un défenseur, il a probablement plus de chances qu'elles arrivent à destination, parce qu'il va pas être attaqué, il va pas être sous pression. Donc non, il faut vraiment être prudent.
T'as une stat comme ça qui est marrante, c'est Neymar qui est, donc à l'époque où il était en Liga, ce petit championnat, où il a le record de ballons perdus sur un match. Je crois que c'est 56 ballons perdus, etc. Alors certes, il a fait un vieux match ce jour-là, mais c'est normal qu'un mec comme lui perde beaucoup plus de ballons, parce qu'il suffit finalement qu'il y en ait un qui passe pour qu'il y ait but. Donc c'est ça aussi, il faut mettre en perspective parfois les ballons perdus ou les passes réussies.
Exactement, etc. Surtout les ballons perdus. Parce
ça
ne
fait pas Neymar un mauvais joueur en soi.
Mais du tout, car quand on regarde les noms des joueurs qui finissent en tête de cette catégorie ballons perdus, qui est donc de base, quand on regarde une catégorie plutôt négative, bah vous aurez les créateurs, vous aurez Neymar, vous aurez Thauvin, vous aurez Fekir, Pastore, voilà, c'est parce que ça, forcément ça crée beaucoup, ça tente beaucoup, donc ça perd beaucoup de ballons, les dribbles ratés forcément, les passes qui n'arrivent pas au bout. Les duels perdus, mais forcément ils vont au duel, donc potentiellement ils vont en perdre plus. Donc effectivement, c'est faut être très prudent avec ça.
Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, ces stats elles ont une influence sur les joueurs, sur les entraîneurs pour le recrutement, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut pas mesurer avec une stat? Comment est-ce qu'il y a quelque chose chez un joueur qu'on peut pas mesurer statistiquement?
Bien sûr, beaucoup de choses. Même je dirais ce que j'ai tendance à appeler les impondérables. Par exemple, si le joueur se sent bien, si il s'est disputé avec sa nana, si il est pote avec ses coéquipiers, s'il a mangé chinois la veille et que c'est pas bien passé, si le terrain est gras et qu'il a pas pris les bons crampons, tout ça on n'arrivera jamais à le mesurer. S'il y a du vent et que ça le gêne par rapport à ses performances, les stats, elles sont pas là pour prendre en compte tous ces paramètres-là. Elles ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, tant mieux. Comme ça permet justement d'avoir de l'impondérable dans le foot, et ça a forcément une influence. Ça peut être aussi les consignes de l'entraîneur. Tu parlais de l'entraîneur. Si l'entraîneur dit à un attaquant d'être plutôt défensif, vous allez regarder sa fiche de stats, vous allez dire bah ouais, mais il a pas tiré une seule fois, il a taclé, ok, mais je sais pas ce qu'on attend de lui. Ben, c'est peut-être ce que son entraîneur attendait de lui pour ce match-là. Donc au final, c'est tout ça, on le sait pas. C'est le
fameux débat Benzema. Tu vois, quand tu regardes Benzema, le nombre de buts, etc. Tu te dis, c'est peut-être pas le meilleur attaquant du monde, mais bon, quand tu regardes ce qu'il fait sur un terrain et qu'il fait gagner son équipe, donc je pense qu'il y a ces impondérables aussi. Et enfin, quand tu parles vraiment de consignes tactiques, là, c'est vraiment parce que l'impondérable, j'ai envie de te dire, tu t'es disputé avec ta nana, certes, c'est très bien, mais ça arrive à plein de gens. Mais t'as des coachs qui t'imposent chaque semaine de faire des choses que t'as peut-être pas envie ou qui sont pas favorables à tes stats.
Bien sûr,
c'est ça.
Et donc, tu nous expliquais tout à l'heure que les clubs venaient vers Opta pour obtenir des stats, pour choisir leur recrutement. Est-ce que des joueurs peuvent venir chez Opta pour dire bon voilà, je voudrais toutes mes stats détaillées, les plus belles possibles pour me trouver un bon club cet été?
C'est déjà arrivé.
Ouais.
C'est déjà arrivé.
balance les noms.
Non, je vais pas balancer les noms, mais c'est des joueurs de Ligue 1 qui par exemple sont en fin de contrat ou par exemple veulent changer d'air. Ils font appel à nous et ils cherchent aussi à
obtenir, ils font un CV statistique.
Johan Molo, 100%.
C'est ça, exactement.
Johan Molo, sûr et certain.
Après, faut garder à l'esprit que beaucoup de joueurs sont maintenant habitués à les avoir leurs stats, parce que si le club les met à disposition des joueurs, certains sont vraiment intéressés, non pas forcément pour se vendre, mais pour voir l'évolution de leur performance, tout simplement. Donc à la fin de chaque match, ils ont leur rapport de stats, donc ils peuvent comparer. Ah ouais, là c'est vrai que j'étais pas mal, effectivement, là j'ai pas mal récupéré de ballons, c'est mieux que sur les 2-3 derniers matchs. Et du coup, ça peut servir effectivement de levier pour des négociations ou pour sa gouverne, tout simplement.
Mais ça va mener justement à notre débat suivant sur l'influence de la stat sur les joueurs. Mais tu as ce côté aussi, enfin moi en tout cas, c'est mon avis personnel, je trouve que les joueurs se cachent de plus en plus derrière cette stat individuelle, et c'est de plus en plus un témoignage d'à quel point le rapport des joueurs au football est de plus en plus individuel. Enfin, je trouve. Après, c'est vraiment un avis, mais c'est même quelque chose que tu pourrais analyser de manière marketing. On sait que les joueurs sont des produits en eux-mêmes. Comme tu dis, en période de mercato, ils vont aller se rapprocher de boîtes de stats pour justement avoir le moyen de se vendre derrière. Et finalement, cette recherche un peu permanente de la stat et la possibilité qu'ils aient toutes ces données sur eux derrière, est-ce qu'elle mène pas à une dérive sur cette individualisation un peu permanente maintenant du rapport au jeu, quoi, qui est quand même, enfin, t'es censé avoir un rapport collectif au jeu d'abord. Ça veut pas dire qu'au sein de ce collectif tu peux pas t'illustrer, mais je trouve que c'est un peu une des limites de... Alors les stats, je pense, ils sont pour rien en fait. C'est ce qu'en font les joueurs et c'est tout le marketing qui va autour en fait. Mais c'est un peu une des dérives.
C'est aussi normal dans le très haut niveau, c'est-à-dire que les joueurs sont là pour faire leur carrière et qu'ils pensent avant tout à leur carrière.
Oui, mais regarde, il y a 20 ou 30 ans, les joueurs ils faisaient leur carrière sans se poser ces questions-là. Et il se disait, bah, si je joue bien et que l'équipe joue bien, je gagnerai des titres. En fait,
ça, en
je
fait,
pense
c'est
pas qu'il se disait, voilà. Si j'ai telle image à la Pogba, pour moi, c'est le meilleur exemple de ça. C'est que ça, tu sens que le mec a le talent pour aller loin, mais il a aussi très vite senti qu'il avait une image marketing parfaite. Et résultat, son recrutement
t'as,
à Manchester United, pour moi, c'est.
Tu as plusieurs choses avec Pogba, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est que tu as forcément aujourd'hui une fiche de stats. C'est plus ton palmarès. Avant, tu affichais ton palmarès. Aujourd'hui, tu affiches une fiche de stats. Et pour revenir à ce que tu dis sur le marketing, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est on individualise un sport collectif. On l'a fait avec des récompenses, le Ballon d'Or, et on le fait aujourd'hui. Même les marques elles-mêmes. Quand
ouais,
tu vois Adidas récemment,
c'est, ça,
c'est dingue.
Campagne,
ils disent
ouais.
On va plus. On sort un peu du bas, mais ça reste quand même dans le côté très individualiste. C'est on va plus suivre des équipes, on va suivre des joueurs. Et c'est peut-être dû à une génération aujourd'hui où les gens suivent des joueurs plus que des équipes. Et du coup, les stats aussi, j'ai pas envie de dire qu'elles n'aident pas, mais elles accentuent ce côté individualiste. Regardez ce que j'ai fait dans un match. Et aujourd'hui, tes joueurs, tu préfères quoi ? Avoir une bonne fiche de stats ou avoir gagné un match ? Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Et certains,
je pense qu'il y en a, ouais. Bah, tu vois Ronaldo, qui pourtant est peut-être le plus grand gagneur de ces dernières années, enfin, dans l'état d'esprit. Tu le vois malheureux en fin de match quand il n'arrive pas à mettre son but en plus. Alors
lui,
que son équipe gagne déjà 4-0 et ce genre de choses.
Mais lui, il gagne tout le temps.
Et lui, au moins, il gagne. Oui, mais lui, parce qu'en plus, il a le talent qui va avec. Mais je pense que tu as énormément de joueurs qui se cachent derrière ça. Bon, ça va peut-être aussi avec les attaquants, je pense. Parce que là, tu as un besoin de rendement permanent et tu es jugé là-dessus, ça peut se comprendre. Mais quand même, je pense qu'il y a vraiment cette obsession qui n'existait pas. Mmh. De toute façon, elle ne pouvait pas exister vu qu'il n'y avait pas les collectes de données déjà.
Et est-ce que justement l'apparition de toutes ces stats a eu une influence sur le jeu, c'est-à-dire que les joueurs cherchant à plus marquer, cherchant à plus se montrer individuellement, est-ce que statistiquement ça se ressent aussi ?
Est-ce qu'on marque plus de buts
aujourd'hui ?
C'est ça. Non, je suis pas certain. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Milan hein, par rapport au fait que la stat peut être instrumentalisée par les joueurs, mais je pense que c'est pas inhérent au foot. C'est la société qui est devenue comme ça tout simplement. C'est l'individualisme, mais dans le foot, qui est maintenant un milieu où voilà, il y a des intérêts économiques majeurs. C'est la performance qui compte.
Et puis répondre à une logique de marché, t'as raison de dire que c'est sociétal, ça. Hein. C'est même les rapports que les gens ont à ces footballeurs sont. Enfin, la starification, toutes ces choses-là, ça va avec ce rapport social presque au
mais
sport.
Vous
qui est dans le monde de l'entreprise.
Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Et quand tu disais en intro, genre Yannick qui regarde les stats pour son compte Instagram, c'est aussi ça en fait. C'est que les gens regardent leurs likes, ce qu'ils ont posté. Donc en gros, quand tu postes un truc, c'est un peu ta performance. C'est ta performance du jour sur les réseaux sociaux. Ben, un mec, pareil, hein, sa performance du match, ben, il va vouloir aussi la quantifier et savoir où est-ce que j'ai été. Donc c'est vrai, c'est aussi, je pense, que très très contextuel.
Non, complètement.
On va dire du bien après, hein, t'inquiète pas.
Non, on les adore. On a l'impression de défoncer les stats, mais moi j'adore ça. Il y en a des. Mais
sans ça, on vivrait pas. Hein, on est un média sportif, je veux dire.
Non, puis surtout, c'est qu'il y a des stats qui sont juste exceptionnelles. Dans le bouquin, on en a pas assez parlé, mais ça fait 200 pages. Il y a énormément d'anecdotes qui sont hyper drôles et il y a plein de choses vraiment hyper intéressantes. On y reviendra, mais la stat, c'est un super outil. C'est clair que. Mais il faut bien l'utiliser.
Et voilà, il faut le voir comme ça, comme un outil, c'est tout. C'est-à-dire pas parole d'évangile, pas quelque chose qui va remplacer tout romantisme dans le foot. Il faut vraiment le voir, comme dit Yannick, comme un outil. C'est tout. Voilà, ça n'a pas plus de prétention que ça. C'est un outil qui nous permet justement d'aller plus loin dans l'analyse et qui nous permet aussi voilà, d'avoir accès à des données comme celles qui sont présentes dans le bouquin.
Et finalement, c'est un outil qui a plus été mis à disposition du public. On en parlait tout à l'heure, c'est Canal+ qui a amené la stat. Finalement, c'est pour consommer le football qu'on a amené la stat et pas forcément pour l'améliorer chez les entraîneurs. Est-ce que les stats sont d'abord arrivées chez les entraîneurs pour leur permettre d'ajuster leur dispositif tactique ou est-ce que c'est d'abord arrivé dans nos salons pour qu'on puisse suivre le match avec plus de précision ?
Non, c'est vraiment, je dirais, 50-50 parce que la statistique dans les clubs, elle a une place majeure. Maintenant, on parlait tout à l'heure de la performance. Même des petits clubs comme Hoffenheim, par exemple, en Bundesliga, utilisent la stat de manière absolument folle, dans le bon sens du terme. Mais on voit aussi que Manchester City, c'est devenu une institution. Bon, après, ils ont les moyens aussi pour, mais en termes de cellules de performance, c'est
incroyable. Tu as des exemples de ce que fait Hoffenheim, par exemple, d'une stat précise ou de comment ils vont jouer ? Parce que je sais qu'on va beaucoup parler de...
Mais c'est quoi ? C'est dans le mercato, ouais.
Qu'est-ce qu'ils font, en fait ?
C'est dans la performance
physique
voilà c'est ça, c'est notamment tout ce qui est balise GPS pour mesurer les efforts des joueurs et aussi leur capacité à faire la passe juste. Okay. Par exemple ils ont une espèce de de cellules où les ballons sortent un peu comme ça à l'arrache, un peu comme au tennis quand on a la ouais. fameuse machine qui nous arrose de balles et qu'il faut les renvoyer. Ah, là c'est pareil, il y a un écran qui s'allume, le ballon sort et il faut que le joueur le mette dans l'autre boîte qui s'allume. Donc ça, c'est, alors encore une fois, c'est pas facile à décrire oralement, mais c'est quelque chose qui peut paraître un peu fou, mais eux ont décidé d'améliorer la performance de leurs joueurs. Donc à ce niveau-là, là on n'est pas dans le recrutement, mais on est vraiment dans l'exploitation de toute la technologie pour essayer de.
Pour moi, c'est vraiment la meilleure utilisation de la stat qui existe en fait dans la préparation.
Purement pure sportive, tu veux dire ?
Purement sportive, physique,
athlétique.
Et à la limite tactique. Parce que les stats te permettent d'étudier ton adversaire, en fait.
Bien
là,
sûr.
Je trouve qu'il y a du sens. Et que là, du coup, en plus, t'es plus dans... Mais bon, du coup, ouais, c'est même plus ouais. vraiment... Si, t'as des stats de match, mais t'as pas ce rapport de... Pendant ce match-là, il faut que telle stat soit mise en avant. Non, c'est comment je peux étudier mon adversaire et du coup, comment les stats me permettent d'en plus améliorer ma préparation et personnel et par rapport
c'est
à l'autre.
C'est pour moi, je pense qu'il y a plusieurs types de stats. T'as la stat arithmétique qui est clairement j'ai marqué tant de buts, j'ai fait tant de passes dé. T'as la stat physique, celle dont on parle. Et puis t'as l'anecdotique. Un exemple tout con qu'il y a dans le bouquin, c'est le premier joueur français à être expulsé en Coupe du Monde, c'est Zidane. Voilà, ça c'est une anecdote, c'est historique, c'est intéressant, mais ça va pas changer la face du jeu, quoi. C'est clairement. Et pour moi, c'est ça. Il y en a vraiment des différentes. Et c'est là où les
il
gens doivent piocher.
Il a réussi deux fois en plus, putain, quand il pense.
Ouais, tu vois, pas mal. Hein.
Ça reste en travers, désolé.
Mais on te pardonne tout, Zidane.
Ces stats physiques là qui s'adressent plutôt aux directeurs techniques des clubs, aux entraîneurs, est-ce que le public doit y avoir accès en fait ? Est-ce qu'on doit encore nous nourrir d'encore plus de stats pour que dans notre jugement on soit encore plus sévère ou encore plus moins sévère ?
Alors je dirais oui et non, parce que quand on sait le type de data que peuvent utiliser par exemple les analyses vidéo dans les clubs, franchement on n'a pas envie d'avoir ce
ouais.
genre de data à disposition parce que c'est vraiment là on est dans le poussé. C'est ce qu'on disait par rapport en fait pour prendre ce que disait Yannick en fait par rapport à la différence entre les stats, les data à l'attention des médias et celle à l'attention des clubs, c'est vraiment différent. On parle vraiment pas du même genre de stats et vraiment là dans les clubs on est sur de la stats super poussée et c'est vraiment vraiment enfin, on va très loin et on va au contraire des médias on va chercher à la garder secrète. On va pas vouloir ouais. On va vouloir améliorer la performance de son équipe bien évidemment et pas forcément celle du voisin, donc ça va rester quelque chose de très
je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a l'impression que les stats ont été au départ créés pour le public et tout, c'est que les clubs ont moins besoin de le mettre en avant, de leur utilisation de la stat.
Pas forcément.
Voilà. Et eux, c'est un travail interne, c'est pas le même principe qu'un média qui aura envie de la mettre en avant pour que les gens réagissent, tu vois. Donc logiquement, on le voit moins.
Mais c'est là le travail des analystes et de votre bureau et d'un média aussi, c'est parce que j'aime pas utiliser ce mot, mais il faut presque éduquer le public à une
bien
certaine
sûr.
Stat. Parce que tu peux vraiment tout lui faire dire et vraiment n'importe quoi. Je prends l'exemple de la finale de France 98, France-Brésil.
Attention, il nous l'a teasé tout à l'heure.
Ah non, mais franchement, parce que non, mais voilà.
Il nous en a parlé toute la semaine.
Tu regardes ce match-là, tu dis ok, France-Brésil 3-0, on les a lourdés, très bien les Brésiliens. Tu regardes juste quelques stats, et c'est, j'ai envie de dire, les stats Thierry Roland, c'était la possession. Et la possession, c'est l'équipe de France, 39,4% de possession. Je crois que c'est leur pire possession dans l'histoire des Coupes du Monde, à part peut-être face à l'Espagne en 2006, ou enfin bref. Donc tu regardes ça, tu te dis, bah ouais, les gars, ils n'ont pas eu le ballon, ils se sont fait retourner par les Brésiliens tout le match. Pas du tout, parce que c'est une seule stat qu'il faut regarder. Et il n'y a pas que ça, parce que quand tu regardes, ils ont tiré plus de fois, ils ont cadré plus de fois, ils ont gagné plus de duels. Donc ça veut vraiment dire que. Ouais, dominer n'est pas gagné encore une fois, et c'est surtout une question de j'ai envie de dire de contexte, et j'ai presque envie de dire que c'est sociétal. Quand tu vois j'ai l'impression que pour c'est presque capitaliste comme façon de voir. T'as besoin de dominer, de tout avoir pour penser que tu es meilleur, alors qu'aujourd'hui je crois pas. Je pense que tu peux, sans faire un parallèle trop sociétal, mais te dire bah tu peux mieux consommer en ayant moins, et aujourd'hui je peux mieux jouer en ayant peut-être moins le ballon. Je pense qu'il y a aussi tout ça à mettre en perspective, et c'est clairement l'utilisation d'une stat où on aurait pu lui faire dire n'importe quoi, mais si tu ne l'associes pas à d'autres choses, bah t'as pas forcément la bonne vision, ou en tout cas celle que moi j'ai de ce match-là.
Exactement, non mais je suis non seulement tout à fait d'accord, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport au sport américain. Par exemple, Milan disait que c'était différent du basket, ce qui est vrai, parce que tu regardes une fiche de match d'un match de basket, bah tu peux lire limite le scénario dans cette fiche de match.
Moi, quand je regarde les résultats de NBA, des fois je ne regarde plus les résumés, je regarde la fiche de stats.
C'est la fiche de LeBron,
clairement. Ouais, non, mais le fiche de stats global de l'équipe, les évaluations par joueur, du coup, et tu sais, tu vois le score global et tu sais que lui a eu telle influence et tout. Et t'as, sans regarder le match, tu le sais en fait. T'as pas besoin de, parce qu'il y a tellement de lignes de stats que.
Exactement.
Et puis alors... t'es plus influent dans un match de basket. Un basketteur est plus influent qu'un footballeur dans un match. Hein.
Exactement. Et par rapport à ce que tu disais, Yannick, en fait. Un tableau de bord d'un match de foot, par exemple, il peut très bien donner 70% de possession à l'équipe A. L'équipe A peut avoir tiré trois fois plus que l'équipe B. Et au final, c'est l'équipe B qui l'emporte. Un 1-0 ou un 2-0 parce que le tableau de bord ne va pas du tout refléter la physionomie de la rencontre. Enfin, disons, il va donner des indications sur le fait que, OK, ils ont eu la possession, donc ils ont... potentiellement dominé, mais à la fin voilà.
Moi, c'est, tu vois, c'est comme si tu fais un match, tu fais un match un contre un, genre Neymar contre moi, il me laisse le ballon, je tire 10 fois plus que lui, bah c'est sûr que je vais beaucoup moins marquer parce que je suis beaucoup moins talentueux et lui il en faut pas 10 000.
Je t'ai jamais vu jouer donc je sais
non,
pas
mais,
si ça se
alors,
joue
tu peux me laisser le bénéfice du doute, mais
déjà
quand
c'est
même...
pas vrai du tout qu'il tirera beaucoup plus parce que Yannick ne tire jamais.
C'est vrai, je défends, tu vois.
J'allais dire un truc. Oui. Du coup, est-ce que c'est un peu votre rôle aussi chez Opta d'éduquer le public pour ces stats, à consommer ces stats en tout cas?
Alors je dirais oui, mais sans arrogance aucune. Vraiment, c'est pas du tout. Enfin, faut pas prendre le public comme pour des benêts. Je pense que c'est juste que c'est quelque chose de nouveau, d'assez récent, la data. Donc nous on fait en sorte d'avoir les définitions les plus claires possibles pour justement avoir une certaine harmonie dans les datas qu'on récolte et je pense qu'effectivement il faut être encore une fois très, très prudent et être très clair sur les définitions qu'on donne aux datas qu'on collecte et ça prend du temps forcément après. Voilà, il y a eu au début, je ne sais pas si la pétence pour les stats était aussi évidente. Maintenant, on a vraiment l'impression que le rapport de force s'est inversé et que les gens sont beaucoup plus bienveillants par rapport à la présence de la stat, tout simplement parce qu'ils ont, je pense, compris aussi qu'il fallait les prendre comme un outil supplémentaire et non pas comme quelque chose qui allait remplacer le foot romantique.
Il y a une stat que toi, tu adores particulièrement ou un élément en fait de calcul que t'aimes, enfin voilà, où tu dis tiens ça c'est vraiment cool, c'est un truc à chaque fois ça me fait rêver.
Non,
enfin, rêver je sais pas, j'exagère, hein, ça reste qu'un chiffre, mais un truc qui vraiment qui te plaît un peu plus que les autres.
Extra pass.
Ça, moi tu vois par exemple c'est ma préférée, mais on la comptabilise pas trop.
Non,
la fameuse extra passe.
Enfin, c'est la passe
avant la
passe
D.
D'accord, la deux, second assist en
voilà,
fait.
C'est ça, la second assist.
On parle pas très bien anglais.
Non, c'est parce qu'en fait c'est les Américains, c'est la MLS en fait qui adore ça. Ils ont ce concept de deuxième passe décisive. Au final, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Nous très peu en Europe, bizarrement. Il y a pas tellement ce concept-là. Alors après, moi, il y a une stat que j'aime bien par rapport à ta question, Yannick, c'est justement, on s'en rapproche de la second assist, c'est la dernière passe avant un tir. Parce que je trouve que parfois, la passe décisive, alors déjà, le nom même de passe décisive induit, et ça, c'est une erreur, que la passe est forcément...
alors qu'elle dépend de la réussite de l'autre derrière.
Exactement.
Il y en a qui sont faciles, hein, tu vois, un jeu en triangle, le mec, il la remet, elle n'est pas toujours...
Ou des fois, elle n'est pas volontaire, et tu vois, et en fait, c'est là où on n'a pas réussi, je pense, en français, à traduire le terme assist, qui est donc le terme anglais, assist, qui veut dire, bah voilà,
aider,
par définition, aider, c'est une aide au but, mais c'est pas décisif, il n'y a pas le caractère décisif dans leur définition, et elle est, à mon avis, plus fidèle à cette catégorie-là. Mais j'aime bien les dernières passes avant un tir parce que ça permet justement d'être plus juste, selon moi, que la passe décisive, puisqu'effectivement, c'est moins dépendant du résultat final, c'est-à-dire du fait de savoir si la frappe va finir en but ou pas, puisque ça va davantage mettre en exergue la créativité en fait de la personne,
le fait que le joueur cherche
indépendamment en fait de ce que l'attaquant va en faire.
On parle beaucoup de stats offensives depuis le début, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres stats. Enfin, tu vois, quand t'es défenseur, il y a le fait de réussir ses tacles, mais t'as aussi des défenseurs qui aiment pas tacler, donc ça peut être les duels gagnés, le clean sheet pour les gardiens. Bah, je trouve ça à la fois très intéressant et à la fois bullshit parce que ça dépend de ta défense, quoi.
Exactement. Et puis souvent, si les gardiens qui font un gros match, c'est parce que leur défense est en bois et qu'ils ont eu l'occasion de faire 8 ou 10 arrêts ou 90% d'arrêts, genre de choses.
Ouais, le pourcentage d'arrêts est plus intéressant déjà.
Ouais, mais le pourcentage d'arrêts, c'est pareil quand ils pensent.
Ouais,
Oui.
Est-ce que ça illustre la force de l'attaque en face? Est-ce que ça illustre
Parce qu'en tout cas, le nombre d'arrêts n'a pas de sens quand ils pensent.
Le nombre d'arrêts.
Areola va forcément faire moins d'arrêts que Lecomte ou Vercoute.
Rémi. On a un exemple un peu sympa sur la Ligue 1 cette saison. Au final, les deux gardiens avec le pourcentage de tirs arrêtés le plus élevé, c'est Areola et Gürtner, le gardien d'Amiens. Donc Areola, effectivement, on se dit, c'est normal, il a une bonne défense, il subit peu de tirs cadrés. Et à l'inverse, Gürtner, lui, il se fait arroser tout le temps. Donc on a, je crois, 82% pour Areola et 75 ou 76 pour Gürtner. Et au final, voilà, encore une fois, il faut prendre les chiffres avec beaucoup de prudence et se dire que Areola est certes leader dans cette catégorie, mais il est peut-être davantage aidé par sa défense que le pauvre Régis qui, lui, devant lui, a l'air des joueurs moins expérimentés, moins costauds que Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe et toute la clique.
Sauf Kurzawa.
Comme tu es
j'étais diplôme, obligé. Hein,
j'ai bien aimé la partie diplomate des joueurs moins expérimentés, ouais, plutôt que de dire des peintres en bâtiment, ce genre de choses.
Ils ont réussi à se maintenir, donc
oui, c'est vrai.
C'est
vrai.
Tout à leur honneur.
Oui, et puis c'est pas les mêmes moyens, c'est clair.
Toutes ces stats, j'ai le sentiment qu'on les retrouve aussi pas mal dans les jeux vidéo et que ça a une influence désormais, d'abord sur le jugement qu'ont le cas le public par rapport à certains joueurs, mais même aussi dans le vrai foot maintenant. On voit les joueurs qui se battent pour avoir tant de stats dans FIFA, Batshuayi qui veut avoir bien son...
on se rappelle du tweet de Benjamin Mendy qui est incroyable en début de saison où Benjamin Mendy a 78 dans FIFA et Patrice Evra 82 qui avait tweeté à eSport les gars vous avez vu la même saison que moi ou pas l'année dernière.
Ouais, à juste titre. Est-ce que
en plus il est leur réponse.
Ouais, en plus ils jouent le jeu forcément, ça leur fait de la pub, c'est génial. Est-ce que ces stats là elles ont une influence aussi, enfin je veux dire est-ce que ça participe de la célébrité de la stat, on va dire, qu'elle soit dans les jeux vidéo, que ça permet d'aider les gens à les comprendre?
Franchement, je saurais pas le dire. Je pense que les chiffres font partie intégrante du jeu vidéo. Je me souviens, enfin, on jouait peut-être, vous jouiez peut-être aussi à PES au début, même ISS Pro, ça s'appelait.
Roberto Larcos, si tu nous écoutes.
Voilà, il y avait, c'était pas des chiffres qu'il y avait, c'était des visages, en fait, des expressions, genre s'il était en forme, un grand sourire, et s'il n'était pas.
Après, t'avais leur fameux hexagone là.
Ouais, voilà, et rien que ça, déjà, alors c'était pas forcément chiffré, mais on regardait tous parce qu'on se disait, bah tiens, faut mettre lui et pas lui parce que lui il est en forme, tout ça, et puis que l'autre, Laurent Bulan, il avait je sais pas combien en duel ou dans telle ou telle catégorie. Donc pour le coup, je saurais pas vraiment dire si la stat a eu une influence dans le jeu vidéo ou si les jeux vidéo étaient un petit peu avant-gardiste à ce niveau-là pour justement donner des indications, parce que c'est vrai que quand on joue à un jeu vidéo, on n'est pas forcément non plus un expert, donc on se raccroche à.
Et de même, moi je pense que c'est ce que j'allais dire.
C'est ça, est-ce que on n'est pas trompé dans le jugement qu'on peut faire des joueurs par les stats qu'on a dans
ça,
les jeux
vidéo?
Ça, c'est
évident. Moi j'ai une anecdote concrète là-dessus. C'est mon petit frère, Adam, si tu nous écoutes, qui a 17 ans, qui est pas enfin maintenant il s'est mis à beaucoup suivre le foot suite au fait qu'il s'est mis à énormément jouer à FIFA. Beaucoup à FUT depuis
justement,
quelques années.
J'allais en parler,
et en fait il a vraiment un rapport aux joueurs quand on en parle où tu sens que maintenant ça va, il a fait son éducation après FIFA, mais au départ il jugeait le niveau d'un joueur en me disant ouais, lui il est énorme et tout. Je lui disais bah non, t'as vu, ça fait 3 mois qu'il plante rien, et il me disait ah ouais mais dans FIFA, et il me disait le chiffre de sa carte, ce genre de choses, tu vois.
C'est ça en fait, ça qui est assez ouf, c'est que tu juges quelqu'un par sa carte, et FIFA c'est en fait c'est la gamification qui existe, donc dans un jeu vidéo c'est normal, mais qui arrive dans le réel. Et l'exemple de FUT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros des cartes de joueurs que tu peux échanger. Donc tu as une carte Mohamed Salah, une carte, enfin tu as toutes les cartes pour te constituer une équipe. Aujourd'hui tu as des cartes qui sont mises à jour en temps réel en fonction des performances des joueurs, donc ça c'est très cool, et les joueurs posent avec leurs cartes dessus. Donc le meilleur joueur de première ligue, Mohamed Salah, il a démarré FIFA cette année avec 82 de notes générales, il a fini avec 99, et chaque mois il avait une nouvelle carte, etc. Et le mec il pose avec sa carte, et sur sa carte il y a non seulement sa note globale, donc sa statistique entre guillemets, enfin dire son pouvoir, sa puissance, et aussi sa vitesse, etc. Et ce côté gamification, quand il traverse le réel et l'irréel, j'ai envie de dire, enfin en tout cas le jeu vidéo, c'est là où c'est un peu pas dangereux.
Après j'ai l'impression que les joueurs en ont un rapport quand même assez léger. Marketing aussi finalement,
je suis
à
pas
ça
sûr.
Je pense qu'ils sont fiers d'avoir des stats élevées dans FIFA, mais ce que je veux dire c'est qu'ils se disent pas ça définit mon vrai niveau. À aucun moment, mais un joueur il se connaît. Je pense que quand il a sa carte ou ses 92, il est content et il est tout fier. Et il se dit sinon, c'est qu'ils m'ont mal jugé si le mec a un esprit en étant persuadé qu'il est le meilleur du monde. Ah, mais je veux dire, à aucun moment ils se disent ah ouais, ils ont mis que j'avais ça comme vitesse donc je suis rapide. Il sait ce qu'il vaut.
Ah, tu mais vois, pour le public, c'est par rapport au public. C'est-à-dire que le public va juger les gens en fonction d'une ligne de stats et aussi en fonction de ce que tu peux représenter dans un jeu vidéo. Mais la ligne de stats aujourd'hui va te juger. On pensait à Cavani avant. Cavani, il a été mis plus bas que terre et depuis qu'Ibra est parti, il y joue à son poste. Il marque certes plus de buts, mais c'était pas un peintre avant. Il marquait 30 buts par saison quand même. Mais c'est, tu vois, cette différence de public surtout. C'est le public pour moi qui joue aussi avec la stat.
Ouais, ils le savent et c'est une nouvelle concurrence entre eux. Tu le disais tout à l'heure entre Benjamin Mendy et Patrice Evra. Le mec, il veut avoir une meilleure carte que Patrice Evra parce qu'il sait qu'il est meilleur et parce qu'il sait aussi que ça a une influence dans le jugement des gens. Et donc ça a rajouté un étage.
Et possiblement d'être sélectionné en équipe de France peut-être, ou d'aller décrocher un contrat comme on disait tout à l'heure, quoi.
Ouais, je pense pas que ce soit qu'une histoire de marketing ou quoi. Je pense que
moi j'espère quand même que les entraîneurs sont pas encore à regarder les stats FIFA des joueurs pour les recruter, quoi. Sinon ça
bah il y a déjà des entraîneurs qui ont été recrutés parce qu'ils étaient bons sur Football Manager.
Ouais, je sais. Bon, après ça c'est aussi, ça fait partie des légendes sur le scoutisme de Football Manager et ce genre de choses, ouais. Où on dit que beaucoup de clubs se sont même vont signer des partenariats avec eux pour avoir leur data, et finalement on l'a bien vu, c'est qu'il y a eu deux ou trois exemples de joueurs qui ont été recrutés sur ces bases là et ça a toujours été des flops, quoi. Et ils se sont rendu compte qu'il y avait quand même une vraie limite entre donc ouais. Ouais, c'est un autre rapport au truc encore, mais
c'est pas Opta qui fournit toutes les stats à Football Manager.
Non, du tout, du tout. Et puis c'est vrai
il
que
ne le dira pas, c'est secret.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut quand même bien faire le distinguo entre les notes en fait qui sont attribuées par algorithme et les stats comme nous on collecte. Je veux dire, après là on est vraiment dans
un chiffre réel et un chiffre subjectif.
On est dans le virtuel. Je sais pas sur quoi ils se basent. Pour attribuer
oui, et puis je pense qu'ils se basent justement sur ces aspects marketing et tout. Des fois t'as Ronaldo en couverture, ils vont lui mettre une meilleure note que Messi, ça va de soi, alors qu'à l'époque c'était Messi en couverture et c'était l'inverse.
Non, je pense qu'il faut vraiment pas mélanger pour le coup tous ces types de data. Après le côté gaming, forcément on le voit bien, il se développe partout. Chaque club maintenant a son champion en termes de gaming,
e-sport et
voilà, de e-sport. Il y a des chaînes, qui ont décidé de promouvoir justement les e-sports à travers des émissions basées uniquement sur ça. Donc je pense que voilà, le jeu vidéo forcément il a une grosse place parce que c'est vraiment le kiff de pouvoir se dire que tu peux faire ton équipe, ça, que comme on a tout joué à Football Manager, tout ça, machin. Mais c'est vraiment, on reste dans le virtuel. On peut pas juger un joueur parce qu'il est bon sur Football Manager ou parce que il a telle note dans FIFA. Faut regarder les matchs, faut s'intéresser au foot et voilà, je trouve que c'est vraiment réducteur.
Il y a une stat qu'on rêve tous, j'imagine, de calculer, mais qui est évidemment impossible, c'est le QI football finalement. Est-ce que tu penses qu'il y a un cocktail de statistiques qu'on pourrait avoir pour se dire bah voilà, ça nous permettrait, genre Canal qui fait son indice de performance bidon là, on comprend rien là, je trouve ça nul à chier, on comprend pas, et ils disent non mais on alimente plein de stats ensemble pour faire en genre une note. Mais est-ce qu'il y a un petit cocktail genre de petites stats intéressantes qui pourrait faire en fait le fameux QI football, celui qu'on rêve de mettre voilà, et la base ça serait Iniesta et puis en dessous les autres, tu vois.
On a essayé avec SoFoot de faire ça cette année en mois de mars, je crois. Ils ont sorti un numéro sur
l'intelligence dans le foot.
Excellent, allez le lire ou le récupérer dans une bibliothèque ou n'importe où, le commander, il est magnifique.
Voilà, donc on a fait ça avec eux, ils sont venus nous voir, on a discuté, on a sorti des stats, on a regardé, on a beaucoup creusé, on a fait appel à Ben Littleton par exemple, donc qui est l'auteur d'un livre sur les pénaltys et tirs au but. C'était vraiment très intéressant. Et de leur côté, SoFoot a aussi sollicité d'autres personnes pour essayer de trouver une réponse. On a essayé de bricoler un test pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire sortir du QI Foot. Et donc, ils ont sorti cette édition, donc, qui est plutôt pas mal, comme tu disais, Valentin. Mais on n'a pas réussi à répondre à la question, tout simplement. Parce qu'on peut pas. Et d'ailleurs, aucun des intervenants que SoFoot a eu ne peut répondre à cette question. Et ils le disent. La seule chose qu'on ne sait pas, qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, justement.
C'est pas que, qu'est-ce que le QI foot, c'est trop compliqué. Pour ça, ils ont fait des analyses. Pourtant, ça allait même côté, ça a basculé dans le scientifique. Hein.
Sur le ouais, temps et même qu'il le fallait, le philosophique, exactement. Le rapport à l'espace, à la prise de décision, c'est ce genre ça. De choses.
Chaque poste, il y a de la géométrie, il y a vachement de géométrie dans le foot, bien etc. Sûr. Mais
et que... au final, on s'est un peu tous regardés à la fin en se disant, bah, on va pas pouvoir faire ce qu'on voulait vraiment, puisqu'on n'a pas, les réponses. C'est quelque chose, je dirais pas de l'ordre du mystique, mais c'est des dons qu'ont certaines personnes. Et on a beau mesurer que Frank Lampard, voilà, il cligne des yeux toutes les X secondes et que forcément ça l'aide par rapport à la moyenne, ou que je sais pas, Ronaldinho, il a les pieds un peu bizarrement faits et du coup ça l'aide aussi dans ses dribbles et ses changements de direction. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qu'il souhaite faire, ou est-ce que c'est quelque chose de naturel? On n'a pas la réponse à ça, donc je saurais pas y répondre. Par contre, là où je peux répondre, c'est sur l'index de performance Canal+, puisque c'est nous qui fournissons les données.
Ah merde, putain. Vas-y,
défonce. Jean-Michel, pied dans le plat.
Allez, vas-y, défonce.
Non, mais c'est
toi
qui fournis les données, ça veut pas dire que c'est
oui,
vous.
Dis-moi tout.
Non, après, il faut pas se dédouaner. Disons que Canal+, a peut-être pas réussi à le présenter de la meilleure des manières, en fait, pour essayer de vous faire court. Cet index, il est basé sur plus de 200 catégories stats. C'est un algorithme qui va donc attribuer des notes par rapport aux catégories statistiques des joueurs en question, sachant que bien évidemment pour un défenseur il va y avoir une pondération, c'est-à-dire que les tacles vont être davantage mis en valeur que les tirs. Pour les milieux de terrain, ce sera plus les passes, voire les passes dans les 30 derniers mètres pour des joueurs un peu plus offensifs. Et donc ça regroupe plus de 200 catégories stats et plus de 5000 événements qu'on analyse par match. Et cet algorithme, donc à la fin, il sort une note sur 100 et qui est donc censé donner à peu près une tendance par rapport à la prestation,
C'est là où on en revient à justement la stat en soi et l'utilisation, la lecture qu'on en a. Et que du coup, l'algorithme, aussi puissant qu'il puisse être, ça sera jamais l'humain, il n'aura jamais ce côté romantique finalement dont on parle en disant le QI, on n'arrive pas à le trouver. La performance de match, on peut avoir tous les algorithmes qu'on veut, mais comme il y a 60 millions de sélectionneurs, il y aura 60 millions de visions différentes sur un match.
Ça a un lien avec la sensibilité que tu as à la découverte de cette stat-là, mais je suis pas fan de la manière dont il médiatise entre guillemets cet indice, mais c'est vrai que c'est toujours plutôt honnête par rapport à la performance. Que enfin moi j'ai rarement vu un indice qui me paraissait aberrant, quoi.
Non,
donc c'est que ça marche quand même, tu vois, ça s'approche.
Ah oui,
de ce que
ça fonctionne, c'est
voilà.
Juste que
après tu peux avoir un rapport à ce chiffre qui est différent, tu vois.
Et là au moins tu vois, on nous l'a expliqué un petit peu plus. C'est en général quand ils arrivent, c'était il a eu 92 sur 100.
Ouais, c'est dommage, ils l'ont pas assez expliqué, je pense.
Ils mettaient en avant quelques stats intéressantes, quelques stats clés,
voilà, qui
là on gagnerait
ce chiffre,
voilà.
C'est ce que disait Valentin tout à l'heure. Au final, c'est pas éduquer les gens, mais c'est toujours être le plus
didactique et pédagogue, ouais.
Pédagogue possible avec le téléspectateur. Et encore une fois, c'est pas de la faute de Canal. Effectivement, c'est toujours difficile de pousser un nouveau produit, une nouvelle manière d'aller plus loin dans l'analyse. Et Canal, pour ça, ils ont toujours été pionniers, et c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Donc là, peut-être qu'il n'y a pas effectivement eu assez d'explications par rapport à cet index en question, mais effectivement je pense que si les choses sont présentées de manière très claire, encore une fois comme disait Yannick, c'est pas de sortir on va faire le meilleur 11 par exemple avec cet index et vous aurez pas le choix, c'est le meilleur, c'est tout. C'est dire voilà, il y a ces 11 joueurs là qui ressortent. Nous forcément on analyse tous les matchs des grands championnats, donc par exemple si on veut faire un 11 type du week-end sur les 5 grands championnats, on peut le faire. Et vu qu'on n'aura pas vu le match de Hoffenheim contre Werder Bremen ou Benevento contre la Spal,
moi je regarde tous les matchs de Benevento parce que je suis un énorme fan de Cheick Diabaté.
Bien sûr, nous aussi. Et d'ailleurs statistiquement parlant,
Cheick a des stats incroyables.
C'est un bonbon, c'est un bonbon pour nous.
Cheick Diabaté, tu es un bonbon.
Ah voilà. Oui, non mais pour nous c'est juste génial. Le
c'est
mec,
notre mascotte à la rédac un peu.
Il est fantastique.
Moralité, en gros, il faut regarder beaucoup de matchs de foot pour réussir à comprendre et à utiliser les stats du mieux qu'on peut, quoi.
Bien vu.
Non mais
merci,
c'est important.
Non,
mais
oui,
c'est important de le rappeler, quoi. Voilà, faut pas se servir que des stats FIFA pour faire son jugement. Il faut regarder le foot et plus on regarde de foot, plus on est à même de défendre.
Et plus on aura envie de prendre du recul sur ces stats qu'on nous présente, en fait. Si t'es curieux et que t'aimes ce sport-là, t'as envie de les creuser aussi, en fait.
Parce que voilà, c'est ça, faut pas être hypocrite là-dessus, c'est que les statistiques, on les adore.
Mais oui.
On en mange.
Bah ouais,
le bouquin, là, c'est pour toujours. Enfin, un peu de promo si tu veux, mais dans le bouquin.
T'inquiète, ce sera pour l'extra.
Il y a tellement de stats géniales à lire, à regarder. Tu sais, tu l'as et tu dis, oh, machin, il n'y a que des chiffres. Et non, il y a des trucs dingues. Mascherano, qui est le joueur qui a touché le plus de ballons.
Ouais, mais pas dans, la surface.
Mais pas dans la surface. C'est lui qui a touché le plus de ballons dans toutes les Coupes du Monde, sauf dans la surface. Adverse, hein, bien sûr. Dans la sienne, oui, mais voilà. Enfin, voilà, il y a plein de choses dedans.
Cristiano Ronaldo a plus tiré sur le poteau que mis de but aussi. En coupe.
Exactement. Enfin, il y a des. Voilà, Maradona, c'est le mec qui a été le plus de fois sanctionné en Coupe du Monde, mais genre, c'est quoi, 150 fautes, et le deuxième, il a 80 fautes derrière. Donc, ça veut aussi dire. Tu vois, cette stat, elle est marrante, et en même temps, ça veut dire aussi plein de choses sur cette stat-là. Mmh. Ça veut dire que c'est un danger, et que du coup, il crée de danger.
Vous allez spoiler son futur quiz,
c'est
ça, là.
Non, mais c'est...
Justement, je pense que c'est le bon moment. On va servir un peu de toutes ces stats. C'est parti pour l'extra time.
C'est prolongation maintenant.
Loïc, c'est un peu ton moment maintenant. Il va falloir nous tester. Nous balancer des stats, essayer de nous poser une colle, quoi. Voilà,
c'est ton moment Julien Lepers, un peu, quoi.
Ouais, voilà, c'est le moment.
Ou Thierry Beccaro, si tu préfères.
Ah oui, Motus, allez.
Alors, est-ce qu'on se cantonne à la Coupe du Monde, ou
c'est toi
qui
choisis?
Parce que vous avez lu le bouquin, bien évidemment.
Ouais, bien sûr.
Moi, c'est eux qui l'ont vraiment lu. Moi, je l'ai survolé parce que je ne l'avais pas. Et je l'ai surtout vachement lu avant de venir ce matin pour me préparer à ce fameux quiz, donc ça m'arrangerait, mais. Bon, ça peut être un peu de deux.
Est-ce qu'on part déjà sur la Coupe du Monde pour
allez,
voir si vous
peu,
avez
allez.
Bien lu le.
Ah, bah, est-ce qu'on a révisé
question de fou là.
Mince. Est-ce que vous avez ouais. Donc
on demandera des indices si on galère.
D'accord. Ok. Alors, si je vous demande quel est depuis 1966 le joueur actuel qui a le plus tiré sans marquer en Coupe du Monde.
Ouais, je sais. Moi je l'ai celle-là.
Merde, je sais aussi. Attends.
Moi je l'ai, donc je vais pas vous dire.
J'ai bien
si
dit
c'est
le
facile.
Joueur actuel.
Ah, il joue plus.
Si, il joue encore.
Il joue encore. Ah bah j'ai les deux. Je peux dire déjà celui qui ne joue plus.
Tu peux dire donc
c'est Frank Lampard.
Voilà,
qui a tiré 40 fois.
On en avait parlé.
Putain, je me souviens l'autre jour.
Et il y a un joueur actuel.
J'ai pas l'autre. J'avais Frank Lampard, je sais pas l'autre.
Qui n'a pas marqué.
Qui n'a pas marqué, qui a tiré beaucoup, c'est un défenseur. Défenseur central.
Défenseur central, Ramos.
Oui, c'est Sergio Ramos.
Normal.
C'est ça, il a tiré 26 fois en Coupe du Monde sans marquer.
Voilà.
26 fois, tu dis pour un défenseur central.
Il a dû mettre des têtes.
Pour Sergio Ramos,
c'est tout le temps.
Ouais, c'est vrai. Ça va.
Qu'est-ce que je peux vous demander aussi, est-ce que vous pouvez me dire de quelle nationalité est Bert Patenaude, le premier auteur d'un triplé
américain.
En Coupe du Monde?
Valentin.
Je pensais vous piéger.
Il faudrait des buzzers.
Franchement, c'est vraiment un énorme coup de chance. Je l'ai lu cette stat, mais 5 minutes avant de rentrer dans le studio. 5 minutes
avant l'oral, t'es tombé sur le bon texte.
Comme d'hab.
Donc on va rester un peu dans l'actu aussi, dans l'actu globale. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des deux seuls joueurs à avoir été expulsés deux fois en Coupe du Monde?
Zizou. Zidane, déjà.
Zidane, clairement.
Ok, celui-là était facile.
Et le deuxième est plus dur, je pense. Récent, le deuxième.
Disons que c'est plutôt contemporain.
Ok.
C'est pas Deco?
C'est pas Deco.
C'est un Portugais, je crois.
Non.
Non, ok.
Très bon flair, Valentin. Très, très, très bon flair.
C'est vrai que c'est pas con de chercher.
Chercher les matchs qui sont partis totalement.
Donc, c'est pas un Italien?
Non. C'est pas un Italien.
C'est un Européen?
Non, ce n'est pas un Européen, mais il a joué en Ligue 1.
Un Brésilien?
Non.
J'ai envie de dire Cyril Roll, mais c'est pas lui, je le sais. Mais j'ai envie de placer Cyril Roll.
C'est peut-être pas un défenseur. Hein.
C'est un défenseur.
C'est un défenseur, d'accord. Attends, il a joué en Ligue 1, tu dis? Et c'est un non-européen, donc c'est un Américain, enfin du Sud plutôt.
Est-ce que ça serait pas Pierre Issa?
C'est un. Ah, on se rapproche.
Un Africain?
On est sur le bon continent. Ouais.
Un Africain, défenseur.
Merde, il a été expulsé deux fois.
Benatia, non, c'est pas ça.
Non.
Ils ont pas fait la Coupe du Monde.
Un défenseur.
Ça va être un Sénégalais.
Un défenseur indomptable.
Un Camerounais.
Ah, c'est Rigobert?
C'est Rigobert.
Ah, qui a été expulsé, genre, je crois, il y a 17 piges, un truc comme ça.
Son premier, oui, c'est ça. Lors de sa première Coupe du Monde.
Rigobert. On va aller chercher loin. Si,
Rigobert.
Bien joué. Première vraie colle.
Et Zizou. Et je peux aussi vous demander les 5 Français à avoir raté un penalty en Coupe du Monde. Un tir au but, pardon, en Coupe du Monde.
Un tir au but. Trezeguet.
Ouais.
Trezeguet, c'est le dernier.
Lizarazu.
Alors, j'ai entendu Bossis et Lizarazu, c'est correct.
Platini, non?
Platini,
ouais,
effectivement.
T'en es à 4, il en manque un?
Oui, il en manque un.
En 98, il y en a 2 qui ratent. Non? T'as pas que Lizarazu? Si, t'as Lizarazu et les Italiens ratent 3 fois. Et du coup,
On a Trezeguet en 2006, on a Lizarazu en 98. Platini en 86.
Bossis 82. Et il invente un autre en 82. Bah oui. C'est pas.
Celui qui fait perdre la. Non, qui fait. Qui rate son premier tir au but.
Non, c'est pas Stopira.
C'est pas Battiston. Non, bah non, Battiston.
Non, non, Battiston, il était à l'hosto.
Couteau dans la plaie. C'est pas Fernandez.
Non, ouais, il le met contre le Brésil en 86.
Ouais, c'est vrai. Attends, 82 du coup.
Bah, y en a
Amoros,
pas
non.
Non.
Bon, on va faire du name dropping d'aller.
Allez, 82, name dropping 82, on n'était pas né. Mais... non, c'est un défenseur.
Non.
Attends, vrai.
Bah, c'est Didier Six.
C'est Didier Six.
Bien vu. Didier Six.
T'en as hors Coupe du Monde, du coup, tu disais.
Vas-y, encore une ou deux, là, histoire de nous faire un peu rêver. Qu'est-ce qu'on aime pas, les quiz.
Oui,
d'ailleurs, on sait que Octa fait un super quiz.
Plutôt pas mal.
Que juste un truc impossible à trouver à chaque fois.
Ouais, c'est vrai qu'on aime bien, quand c'est compliqué. sur quel.
Bon, si tu préfères Coupe du Monde, vas-y. Hein.
Non, mais par exemple, on peut faire la Ligue des Champions. Donc, Zidane a remporté une troisième Ligue des Champions. Enfin, une troisième fois la C1, même d'ailleurs, parce que ça va au-delà de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez me citer les deux précédents
Ancelotti et Pesley.
Et Bob Pesley. Ils sont bons, ils sont faciles.
Mais tu vois, on est dans la stat anecdotique, historique, etc. Mais tu vois, c'est nos cours d'histoire en fait. C'est nos, en tant qu'amoureux du foot, on a ça. Mais si tu me demandais quel est l'entraîneur qui a le plus de. Le ratio de victoire en Ligue des Champions, alors là, par exemple, tu vois, je l'ai pas.
Zizou, du coup, hein, je pense que personne peut.
C'est vrai qu'il doit être pas mal. Il doit être pas mal de choses, Zizou.
Après, encore une fois, question de contexte, est-ce que tu mets un minimum de matchs pour, on va dire, privilégier les mecs qui ont été là, comme Ferguson, comme Mourinho, comme Guardiola, Ancelotti, qui ont plusieurs centaines, enfin des centaines de matchs, 50 ou 100 matchs à leur actif? Ou est-ce que tu mets pas de minimum et tu vois Zizou qui est potentiellement va
juste
être,
pour lui donner un titre de plus
va être numéro 1. Je vous en fais une petite dernière.
Vas-y, une bien dure là, qu'on galère encore.
Une bien dure. Alors,
mec qui aime se faire mal. Tu sais.
Qu'est-ce qu'on peut trouver.
Je mange une dernière cerise pendant que tu réfléchis du coup.
Bah, j'essaie justement de puiser dans le quiz de cette année, mais de trouver quelque chose qui puisse.
Sinon, tu peux prendre une de la Coupe du Monde hein, si tu veux. Si c'est plus frais pour toi, nous.
Non, mais on va on va passer sur la Ligue 1. Je vous ai pas fait la Ligue 1.
Non.
Donc, Rony Lopez cette saison, il a marqué lors de 8 matchs consécutifs. Ok.
Ouais.
Au 21e siècle en Ligue 1, il y a qu'un seul joueur qui a fait mieux. Il a marqué lors de 11 matchs consécutifs.
C'est pas Ibra.
Qui est-ce? C'est pas Ibra.
C'est pas Donald Roux.
J'imagine que c'est pas Cavani du coup pour que ça soit plus dur.
11 matchs de suite.
11 matchs de suite.
C'est
la Cazette. C'est
solide en tout cas.
Non.
C'est pas la Cazette.
C'est dommage, c'était vraiment très très bien tenté.
Au 21e.
Il joue plus en Ligue 1 ce gars-là.
Non.
Mais il joue encore en foot.
Non, il joue
Gomis.
Plus au foot.
Il joue plus au foot.
Ah, il joue plus au foot.
Mais Gomis, c'est ce qu'il joue. Gomis joue au foot.
Et c'est 21e siècle, tu dis.
Oui.
Il a pris sa retraite récemment du coup. Un attaquant français qui plantait beaucoup.
On sait pas s'il est attaquant français.
Ah non.
Non, c'est pas Guivarch.
C'est pas Guivarch.
C'est un attaquant.
Paoletta.
C'est un attaquant.
Okay.
Paoletta.
Ce n'est pas Paoletta.
Ah.
Est-ce qu'il est français?
Il n'est pas français.
Nonda.
Alors Nonda.
Chabani Nonda. C'est à sa grande époque Monaco.
C'est pas bête. Merde. Puisque avec Rony Lopez
c'est le deuxième
meilleur total. Voilà, c'est le deuxième à avoir fait 8. Mais là c'est on cherche ça. Quelqu'un à 11.
C'est un attaquant qui a pris sa retraite en 21e siècle.
Elbert.
Il est pas français.
Carou.
Non, soyons.
Il est pas français.
Sonny Anderson.
Oui, Sonny Anderson.
Ah, c'est Sonny. Voilà. Putain, c'est ouf qu'on l'ait pas cité dès le début.
Sonny Anderson, direct, les gars.
On cite Paoletta et pas Anderson. Ouais,
bien vu.
Ouais,
on finit sur un Lyonnais comme par hasard pour Valentin.
Valentin.
Oui, bah voilà, et c'est pas moi qui le cite en plus, donc c'est terrible. Ce
on a cité beaucoup de Lyonnais d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que tu te dis.
Bah, vous c'est le 21e bon. Siècle qui domine la Ligue 1, c'est vite vu quand même.
Oh, Smandou, Valentin, Smandou.
Bon, bah on n'a pas été si ridicule dans ce quiz, franchement.
Non, ça va.
Vous avez été très bon.
On a eu deux vraies colles. Enfin, une vraie colle et le cinquième joueur. Ah non, tu avais trouvé Didier Six.
Ouais, on l'a trouvé. Ouais,
merci beaucoup, Loïc Moreau, d'avoir été avec nous pendant cette heure d'émission, finalement, qui devait durer 45 minutes, finalement.
On a l'extra time, donc c'est possible.
Ouais, voilà.
On a le droit.
Beaucoup d'arrêts.
J'invite tout le monde à acheter ce bouquin, du coup, chez Solar Edition, Opta, toutes les stats de la Coupe du Monde. C'est vraiment, vraiment chouette. On peut en piocher tout le temps.
Et on n'a pas tout dévoilé. Et il y a des images aussi. Il y a plein de trucs. C'est hyper drôle.
Pour streamer pendant le mondial.
Faites-vous un quiz entre potes comme là on vient de le faire. C'est juste juste drôle.
Mais en fait, tu ouvres le bouquin à une page au hasard et tu donnes la stat et t'essaies de te faire trouver. Les gens ont toujours envie d'essayer de répondre.
Ça marchera à chaque fois.
Merci Milan, merci Yannick d'avoir été autour de la table aujourd'hui. Et puis à la semaine prochaine.
Salut à tous.
Salut à tous.
Ciao.
C'est fini.
Et c'est fini.